théorie des nombres, mathématiques financières, mécanique des fluides, équations aux dérivées partielles, fractales, etc., etc. Le monde des mathématiques est riche et varié. Des centaines de mathématiciens sont venus en discuter cette semaine à Montréal. Et l'un de ses plus illustres représentants des mathématiques et tête du nombre, Sophie André.
Oui, il s'agit de Jean-Pierre Serre, qui aura bientôt 82 ans, et il est l'un des grands mathématiciens du 20e siècle. Mm-hmm. Ses travaux en topologie algébrique, puis en théorie des nombres, puis en géométrie algébrique lui ont valu bien des honneurs. On lui a d'ailleurs attribué un doctorat honorifique cette semaine à l'Université McGill. Mais surtout, bien avant, il a remporté la médaille Fields en 1954. La médaille Fields est souvent comparée au prix Nobel, mais elle est réservée aux mathématiciens qui ont moins de 40 ans. Alors, le prix Abel a été créé en 2001 pour souligner les carrières de mathématiciens et Jean-Pierre Serre recevait aussi donc le prix Abel en 2003. Mmh. Il participait donc cette semaine au Grand Congrès mathématique France-Canada. Il y a prononcé une conférence autour du groupe de Cremona. C'est un sujet qui touche, je crois, à la géométrie algébrique. J'ai mesuré toute mon ignorance cette semaine. C'est un homme qui cultive la passion des mathématiques pures, une discipline qui fait de la communauté mathématique un groupe qui singulier mais très solidaire, où les résultats scientifiques sont des vérités vérifiables instantanément ou presque.
Nous pouvons vérifier ce que les autres disent presque tout de suite. On peut pas tout de suite, mais tandis qu'en sciences expérimentales, vous lisez ce que monsieur Dama a fait et puis décrit une expérience. Et il faudrait en principe refaire l'expérience pour le vérifier. Et si vous n'avez pas le matériel, c'est pas la peine. Vous pouvez pas. Tandis qu'en maths, il n'y a pas de choses comme ça. Donc quelqu'un écrit un article, quand il est bien écrit, les gens le comprennent et l'utilisent 6 mois après.
Quand on regarde de l'extérieur sans comprendre grand-chose aux mathématiques, on s'imagine que les mathématiques expliquent le monde. On pense que c'est un ensemble de connaissances qui est fini, qu'on a déjà à peu près tout compris.
Ah oui, alors c'est faux. La première chose que vous avez dite est fausse, puis la seconde est fausse aussi.
Bon, bah alors corrigez-moi, s'il vous plaît.
On se sert des maths pour expliquer le monde. C'est pas pareil, et c'est pas notre... donc c'est pas très loin quand même. Mais elles ne sont pas faites pour ça. J'ai tendance à regarder les maths un peu comme un jeu. C'est un jeu dont la règle du jeu est que ce qu'on dit doit être absolument vrai. Et ça, c'est une règle terrible. Alors, il n'y a aucune autre science où on puisse dire ça, parce que chaque fois que, même en physique, les lois physiques, il y a toujours 50 ans ou 100 ans après, une variation qui montre que ce n'était pas tout à fait ça, et il faut changer de point de vue. Tandis qu'en maths, non. Des théorèmes démontrés il y a 2000 ans, si la démonstration était bonne, Euclide démontrait... Et qu'il y a une infinité de nombres premiers, par exemple. Cette démonstration est parfaite. Et on la raconte encore maintenant. Elle est très bien. Elle ne donne pas autant d'informations qu'on voudrait, mais ce qu'elle donne est totalement vrai. Pour le monde extérieur, ça se résume un peu à ça. Nous fournissons des listes de choses vraies et pas évidentes, quand même. Et de techniques aussi, pour les démontrer. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous faites de la physique avec, de la biologie, moi, je suis très content, mais ça ne me concerne pas.
De dire que c'est un ensemble de connaissances finies, là aussi, j'avais tort.
Fini, oui, à l'heure actuelle, c'est fini, bien sûr, mais qui augmente. Quoi. Quand vous dites fini, vous entendez sans doute terminé. Pour pas être terminé, c'est pas terminé. C'est même magnifique à quel point les questions se multiplient. Et il y a un fait curieux, c'est qu'il y a eu des périodes dans le passé où on n'avait pas cette impression-là. À la fin des années 1700, un des grands mathématiciens de l'époque, Lagrange, considérait, comme vous, que les maths étaient finies. Et puis alors, ça a redémarré, alors, le siècle d'après.
Et où est-ce qu'on en est maintenant par rapport à ça?
Bon, ça bouge. Il y a des progrès qui viennent des maths elles-mêmes internes, donc des problèmes qu'on se pose. Vous voyez là, par exemple, je vous ai dit qu'à la fin de mon exposé, que sur les groupes de Cremona de rang au moins 3, on ne savait presque rien. Mais ça, on a envie de savoir. Et d'autre part, il y a, par exemple, la physique théorique qui pose des problèmes de maths. Moi, je me suis toujours nourri à la source interne, à la source des problèmes que les maths se posent et que je me pose. Ah ben, je vais vous raconter quand même une histoire. J'ai reçu un prix, quoi. C'était en Israël et on remettait le prix dans la Knesset et je le partageais avec un Américain, un vieil ami, Bott. Et alors... Il fallait que l'un de nous fasse quelques phrases sur les maths. Alors, Bott parlait très très bien. Donc, j'avais dit à Bott, c'est toi qui le feras. Il avait dit oui. Et puis quelques jours avant, il m'envoie un email un peu désespéré. Serge, vraiment, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Alors je lui dis, écoute, mais c'est pas compliqué, tu vas leur dire ceci. Que la physique, le travail des physiciens, c'est de chercher les lois que Dieu a choisies, et celui des mathématiciens, celles auxquelles Dieu a dû obéir. Je ne suis pas croyant le moins du monde, mais je savais que vous étiez un bon catholique, et en plus, ça serait dit dans la Knesset, ce qui quand même avait un certain charme. Et ça correspond à ceci, vous pourriez imaginer d'autres lois de physique. Expérimentalement, elles ne seraient pas vérifiées, mais elles sont concevables. Tandis que vous ne pouvez absolument pas changer les énoncés de mathématiques. Ils sont vrais de façon absolue, quoi. On n'y peut rien.
Hein, on n'y peut rien, Sophie, hein, quand c'est vrai. C'est vrai.
Donc, c'est mathématiquement vrai.
C'était le grand mathématicien Jean-Pierre Serre. Mais malgré le désintérêt dont il a fait preuve dans cet extrait pour les applications de ses travaux, quand même, le monde des maths purs et appliqués, hein, ça se côtoie. Et c'était le cas cette semaine, donc, dans ce grand congrès Canada-France.
Oui, 800 mathématiciens, des purs et des appliqués, qui ont partagé les dernières mises à jour mathématiques. Je vous propose donc une mosaïque de petits sujets mathématiques qui ont trait à la définition des mathématiques, à leurs applications et à leur transmission. Commençons par Yvan Saint-Aubin. Il est professeur au département de mathématiques et statistiques à l'Université de Montréal. Il a donné une conférence publique cette semaine et quand il parle, les œuvres de Jackson Pollock peuvent côtoyer les fractales et le mouvement Brownien,
wow.
Et tout cela a du sens quand il parle. C'est qu'il pose son regard de mathématicien sur des concepts assez particuliers, ceux de désordre et de beauté.
On a des éléments disparates qui décrivent la même chose, qui cernent un même objet, mais qui ont l'air de ne pas se parler. Donc, on a le sentiment de désordre. Et quand finalement, on trouve le lien, l'ordre s'établit entre ces pièces de puzzle qui ne se touchaient pas.
Et vous avez fait la démonstration, par exemple, avec de l'art abstrait qui, une fois décortiqué, analysé, présente une certaine forme d'ordre. On passe du désordre à la beauté. Mm-hmm. Est-ce que ça s'applique partout?
Il y a des sujets, en fait, où la recherche est poussée par le but de montrer un énoncé dont on est presque sûr, mais pour lequel on n'a pas de preuves. Là, le désordre est moins évident parce qu'on a le but. On connaît pas le chemin. Mais en fait, il y a eu des grands exemples récents où des énoncés il y a 3 siècles sans preuve ont été démontrés et les gens qui ont trouvé le chemin ont eu cette expérience esthétique incroyable de pièces qui s'adaptent l'une dans l'autre et qui sont magnifiques. Quand l'image, l'idée jaillit, il y a ce sentiment que la vérité est belle.
La vérité, alors on y revient encore, hein, Sophie André. Donc c'était Yvan Saint-Aubin qui est prof de maths au département de mathématiques et de statistiques de l'Université de Montréal. Alors avec la beauté et la vérité, on a des éléments peut-être de la définition des mathématiques, si je comprends bien, et du côté maintenant des applications, Sophie André.
Il y a un très vaste choix de mathématiques appliquées. J'ai choisi d'aller voir pourquoi le congrès mathématique se tenait en partie à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Et c'est Frédéric Lesage, professeur en génie électrique à l'École polytechnique de Montréal, qui m'a expliqué que les mathématiciens sont essentiels pour améliorer la quantité d'informations qu'on peut tirer, entre autres, de l'imagerie médicale.
Ici, il y a un scan en ce moment. Je crois qu'ils sont en train d'imager un chat, en fait. C'est un appareil qui est utilisé pour faire de l'imagerie.
On peut cognitivement distinguer différents états, mais si on veut rendre les techniques d'imagerie, notamment la résonance magnétique, encore plus utile pour le diagnostic, bien, il faudrait qu'elle soit capable de mesurer quantitativement des mesures physiologiques, de comparer des individus au lieu de comparer 2 conditions entre elles ou des populations. Donc, d'arriver au final à avoir pour un individu qu'on va entrer dans le scanner une mesure quantitative de son état. Et je dirais à ce jour, c'est assez difficile et c'est un peu le but de toutes ces approches, c'est-à-dire de combiner les modalités pour essayer d'aider notre compréhension des images, puis notamment d'avoir des chiffres qui veulent dire quelque chose. Pas juste des belles images, mais des quantités qu'on peut utiliser pour diagnostiquer une maladie, par exemple.
C'était Frédéric Lesage, qui est professeur en génie électrique à l'École polytechnique à Montréal, donc qui parlait de la place des mathématiques dans l'imagerie médicale. Donc on a fait la définition au début, on vient de parler d'application, puis il y a aussi la transmission des mathématiques.
Transmission de l'amour des mathématiques, c'est pas nécessairement évident. Yvan Saint-Aubin, qui parlait tout à l'heure de la beauté qui émerge quand l'ordre naît du désordre, m'a aussi dit que malheureusement, le langage des mathématiques est complexe, il est rigide, et ça rend la tâche difficile pour les mathématiciens quand vient le temps de transmettre leurs émotions face aux beautés, aux possibilités des mathématiques. Mais il y a des mathématiciens qui se consacrent à cette transmission, et pas seulement dans une salle de classe avec un tableau et un sarroule. On connaît ici Jean-Marie Deconinck, professeur en mathématiques à l'Université Laval. Je l'ai rencontré au congrès lors de la finale que se disputaient les étudiants en mathématiques au jeu Maths en jeu. Mais j'ai aussi rencontré Denise Grenier du laboratoire de mathématiques de l'Université de Grenoble. Elle a joué à la magicienne pour moi avec son assistant François Sauvageau, qui est chercheur en formes automorphes au département de mathématiques du CNRS à Nantes.
Vous allez choisir 5 cartes.
Je les regarde.
Je vais choisir celle qui vous correspond le plus, et c'est celle-là que je vais faire deviner aux magiciens. Donc, moi, j'ai des actions au niveau du grand public en France. Il y a un moment qui s'appelle la fête de la science où, pendant une semaine, les chercheurs peuvent soit faire des portes ouvertes, soit aller à la rencontre du public. Donc, moi, j'aime beaucoup ça et en particulier amener des mathématiques dans la rue. Donc, l'intérêt de position du mathématicien qui est différente de l'enseignant, c'est que comme il a un regard différent, il a aussi un statut différent qui permet aux enfants et aux parents de se comporter de façon légèrement différente. Donc, peut-être de sortir des règles établies ou des peurs établies pour aller vers autre chose. Et donc, l'idée, c'est de partir de situations qui sont élémentaires ou simples, comme un partage de billes ou comme des questions qui sont d'intérêt pour tout le monde. Ça peut être, par exemple, en France, sur les tests ADN, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le mathématicien peut dire là-dessus. Et pour l'enfant, ça peut être des situations soit de jeu, soit de tour de magie, par exemple, qui l'invite à se poser des questions sur ce qu'il voit et comment il peut l'interpréter.
Alors, c'est peut-être le 9 de cœur.
Mais
oui. Je connais ce jeu depuis hier soir seulement et je n'y ai pas passé la nuit. Vous voyez, c'est formidable. Hein,
5 participants à la finale d'un jeu qui s'appelle Maths en jeu. Il n'y a pas seulement qu'à l'école qu'on peut développer le goût pour les mathématiques. Les parents peuvent contribuer à développer chez les jeunes le goût des mathématiques en jouant avec eux des jeux de société. Il y en a plusieurs, ça s'appelle Labyrinthe, La forêt enchantée. Si vous voulez aller sur Internet, taper jeux mathématiques, vous allez trouver toutes sortes de jeux. Bon, bien sûr, il y a Maths en jeu, il y a 10 000 abonnés, etc. Et c'est pas nécessairement des jeux avec des formules mathématiques ou des calculs mathématiques, c'est souvent des jeux de logique, de stratégie, qui font travailler le cerveau un petit peu. Patrick vient de terminer sa partie avec un pointage record de 251 points. Une bonne main d'applaudissements pour Patrick.
Alors, c'était donc Jean-Marie Deconinck, professeur de mathématiques à l'Université Laval et à Québec, qui était aussi notre scientifique de l'année il y a quelques années. Denise Grenier, auparavant de l'Université de Grenoble, et François Sauvageau, mathématicien au CNRS à Nantes, en France.